Oui.
Est-ce que ça veut dire que donc l'hiver il est fini ou est-ce que c'est...
Alors, 1927, comme 1917 avec Einstein, les astronomes estimaient que l'univers devait être une structure finie. Aujourd'hui, les astronomes diraient, on ne sait pas, mais tout se passe comme si c'était une structure qui n'était pas finie. Mais pour le savoir, il faut avoir des méthodes pour déterminer la courbure de l'univers. Si on détermine qu'il n'y a pas de courbure dans l'univers, alors l'univers est plat. Et s'il n'a pas les propriétés du cube que j'ai décrites, alors ça veut dire que la structure s'étend à l'infini. Donc aujourd'hui, on a des techniques pour mesurer la courbure de l'univers et pour savoir s'il est de fait sphérique ou bien s'il ressemble à une selle de cheval ou bien s'il est un plan, enfin un espace plat. Mais c'est... la science est toujours à une erreur d'observation près. Donc aujourd'hui, on pourrait dire probablement qu'il est plat. Donc, c'est-à-dire que probablement qu'il s'étend peut-être à l'infini, mais à une erreur d'observation qui pourrait faire qu'en réalité ça peut être fini, mais avec un rayon de courbure tellement grand qu'on ne le voit pas. Mais aujourd'hui, les mesures plutôt vont dans le sens d'un univers plutôt plat. Oui.
S'il n'est pas présent un volume sur le
plat. Ah oui, mais non, quand je dis plat, on pourrait dire, euclidien, c'est-à-dire sans courbure. C'est ça, plat, enfin, on pourrait dire sans courbure. Par exemple, cette structure-ci, si on accepte les tables, etc., je peux aller dans toutes les directions avec des droites. Donc c'est un univers qui est, je devrais dire euclidien, mais un univers euclidien est un univers d'une certaine manière sans courbure, c'est ça.
Si on part du principe que toutes les galaxies se propagent d'une façon sphérique, comme vous dites,
il n'y en a pas. Parce qu'effectivement, ça c'est une mauvaise représentation. Il vaudrait mieux se représenter. Ça c'est l'exemple qu'on peut sortir pour qu'on comprenne un petit peu. Mais pour avoir une représentation qui serait beaucoup plus fiable, on devrait plutôt imaginer l'univers comme ceci, avec des galaxies. Oui. Voilà. Et l'expansion de l'univers. C'est la dilatation. D'accord ? Donc c'est le fait que entre les deux galaxies, il y a de l'espace qui se crée. Et les galaxies s'écartent. D'accord ? Donc ça, ce serait plus juste comme image. D'accord ? Et là, on pourrait dire, il n'y a pas d'extérieur, puisque je vais jusqu'à l'infini. Et l'infini plus quelque chose, c'est toujours l'infini. Donc il n'y a ni centre ni extérieur. Ça, ce serait une image plus juste. D'accord ? Mais tu as tout à fait raison. Parce que si on dit ceci, on a l'impression qu'il y a un centre. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de centre à l'univers. Comme disait le cardinal Nicolas de Cuse, déjà bien avant, à la Renaissance, tous les points sont centres. Tous les points sont centres. Il n'y a pas de centre absolu. Ça, c'était d'ailleurs un des piliers de la relativité. La relativité dit qu'il n'y a pas de repère absolu dans l'univers empirique. Oui, je vais prendre cette... Oui, celle-là. Non, je suis l'ordre. Oui. Je ne sais plus dans quel ordre, mais... oui.
Dans la quatrième dimension, c'est
ça ? Oui, c'est ça. Mais ici, pour voir une sphère à trois dimensions, dans une dimension spatiale, il faudrait une quatrième dimension spatiale. C'est-à-dire, ça veut dire qu'on se situerait dans un espace-temps à cinq dimensions, si on met le temps en plus. Oui, c'est pour voir une structure à deux dimensions, il faut sortir et être dans une structure à trois dimensions. D'accord ? Pour voir l'orange, je dois être dans un volume. Mais maintenant, pour voir une structure volumique, je dois sortir. Eh bien, oui. Non, c'est une structure bidimensionnelle si on considère la surface. Bien sûr, c'est un volume si on... Mais la surface est deux-dimensionnelle.
C'est pareil quand on prend...
Oui, puisque pour fixer un point sur ton stylo, tu as besoin de deux coordonnées. La coordonnée angulaire de la base et la hauteur. D'accord ? Donc si on a ça, pour fixer un point sur un cylindre, il suffit de prendre une origine ici, de donner ici la coordonnée, ce qui revient à donner cet angle-ci, et puis de donner la hauteur qui est là. Donc le point qui est ici, il est fixé par un certain angle et une hauteur. C'est donc une structure à deux dimensions. Maintenant, évidemment, si on considère ce qu'il y a dedans, c'est une structure à trois dimensions. D'accord ? C'est comme la surface ici, je dois donner la longitude et puis la latitude. C'est une structure à deux dimensions. Maintenant, pour voir une surface à deux dimensions, je dois être dans un espace à trois dimensions.
C'est comme la coupe qui nous
range.
Et nous, on a toujours que la surface en deux dimensions, cette coupe.
Voilà. Voilà. Pour voir la limite, la surface limite de l'orange, je dois sortir. Donc, dans un espace avec une dimension supplémentaire. Maintenant, imaginons que j'ai une structure à trois dimensions. D'accord ? Pour la voir vraiment de l'extérieur, je devrais aller dans une quatrième dimension. Ben oui, je suis en train de... Oui, bien sûr. Donc, bon, si elle n'existe pas, je ne peux pas sortir pour la voir. D'accord ?
En fait, quand on parle de quatrième dimension...
Dans la relativité, c'est le temps.
Et alors, du coup, vu que... si on voulait vraiment expérimenter cette quatrième dimension pour envisager une chose...
Oui.
Comme ça, il faudrait qu'on se mette là, comme ça, tout à l'heure, pendant 5 milliards d'années.
C'est une bonne objection. C'est-à-dire qu'une façon de voir une structure à trois dimensions, hein, ce serait de laisser s'écouler le temps et de voir qu'elle se modifie. Et on verrait des tranches. D'accord ? Mais une autre façon, si on dit à un temps donné, fixe, je veux voir quelque chose à trois dimensions, je dois sortir dans une quatrième dimension qui n'a plus le temps, puisque je suis à un instant donné. Et ce serait une quatrième dimension spatiale. Eh bien ça, je peux montrer comment on fait. Mais ça, M. Semaine va être fâché si je commence à faire de la géométrie maintenant. Mais ça veut dire qu'on peut encore le faire parce qu'il y a une façon de projeter la quatrième dimension facilement dans la troisième dimension. Et de voir ce qui se passe. Et d'en avoir une belle représentation. Donc c'est comme ça qu'on fait quand on fait de la géométrie sur des sphères à trois dimensions. Mais ça, je veux bien montrer, dessiner ça pour qui veut, et c'est assez beau, mais malheureusement, je n'ai pas assez de temps. Bon, alors, donc ceci est très intéressant. Georges Lemaître le présente au Congrès Solvay, qui est, si vous voulez, la rencontre de tous les prix Nobel à l'époque de physique et de chimie à Bruxelles en 1927. Et Lemaître se risque à dire à Einstein, moi j'ai la solution, je sais pourquoi les galaxies comme ça nous s'en vont, voilà, j'ai l'explication. Et Einstein lui dit, vos mathématiques sont parfaites, votre physique est abominable. Alors pourquoi ? Mais parce que justement, Einstein n'est pas prêt à admettre l'idée d'un univers en expansion. C'est-à-dire qu'il ne peut pas admettre l'idée que l'univers en lui-même pourrait avoir une histoire, pourrait changer. Et en partie parce que Deus sine natura. Parce que pour lui, l'univers en totalité, c'est Dieu, et Dieu ne peut pas évoluer. Dieu ne peut pas changer. Il est dans son état de perfection. Et il envoie donc le maître sur les roses, en même temps que, quelques années avant, il a refusé la publication d'un pauvre mathématicien russe, Alexander Friedman, qui avait trouvé dans, effectivement, la relativité générale, des solutions qui étaient des solutions d'univers qui gonflaient ou bien qui se contractaient en fonction du temps. Et Einstein a reçu ça comme article et il a dit c'est sûrement faux, il y a des erreurs de calcul. Et alors on sait aujourd'hui que non seulement il n'a pas fait tous les calculs, mais il en a refait et il s'est trompé. Mais a priori il a dit c'est pas bon, il a mis ça dans le tiroir et il a refusé de publier l'article de Friedman. Pauvre Friedman qui faisait aussi de la météorologie et donc allait dans des ballons à haute altitude à prix froid. Il en est mort et il n'a jamais vu ses articles publiés alors qu'il avait là une des solutions qui est aujourd'hui une des solutions très importantes pour la physique de l'univers. Mais donc ça veut dire aussi que Einstein a bloqué ses articles, donc Lemaître ne connaissait pas ses articles, il a redérivé lui-même sa solution. Mais tout ça a été bloqué jusqu'en 1930 dans le fond par un présupposé philosophique. Et c'est là, tout à l'heure je disais, parfois science et philosophie sont mélangés. Parfois, des présupposés philosophiques alourdissent les sciences de telle manière que, même dans la construction théorique, Les gens peuvent être influencés très fortement par des présupposés philosophiques. Et c'était le cas d'Einstein. Einstein, jusqu'en 1930, refuse toute idée d'un univers en expansion ou en contraction, parce qu'il dit « ce n'est pas possible ». En réalité, c'est possible dans ses propres équations. Mais il est bloqué par cette idée d'historicité. Pour lui, l'univers ne peut pas avoir d'histoire. Et ceci est intéressant parce que si on reprend l'idée d'une herméneutique de la nature, est-ce que c'est la même chose, un univers sans histoire et un univers avec une histoire? Un univers sans histoire, ça veut dire que c'est un univers qui est tout fait et qui reste ce qu'il est, d'accord, où toutes les choses sont ce qu'elles sont. Un univers qui a une histoire, c'est un univers dans lequel progressivement les choses se font. Progressivement. Donc ça veut dire qu'éventuellement, s'il y a de l'aléatoire, tout n'est pas joué d'avance. Quelque chose peut changer. Tout n'a pas toujours été comme ça. Le monde n'a pas toujours été le même, etc. Okay? Donc philosophiquement, l'idée d'un univers qui a une histoire est quelque chose qui est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que l'histoire, justement, donne des possibilités de se construire progressivement, d'acquérir progressivement aussi des singularités. Si tout est fait, voyez, tout est construit, eh bien, il n'y a pas cette possibilité pour les systèmes de se faire progressivement, d'acquérir des originalités, des spécificités. Autrement dit, il y a quelque chose de la créativité qui n'est pas là. Bon. Alors, c'est clair que ça n'a pas la même portée philosophique. Bon. Alors, 1930, Einstein enfin consent à accepter l'idée d'un univers en expansion. Parce que, en fait, on ne voit pas comment expliquer mieux ce grand mouvement des galaxies. Et il capitule, dans le fond, et dit, bon, ok, l'univers, c'est vrai, l'univers est en expansion, comme l'abbé Lemaître l'a dit, et tout le monde commence à utiliser le modèle de l'univers en expansion.